Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance.
Les mots.
Les mots.
Les mots.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots. Les mots.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un deuxième extrait du livre de Carmen Laforêt, Nada. La musique choisie est Porqué te vas, interprétée par la fanfare Prise de Bec, la chanson de Barbara, Mon enfance. Soulagement de l'eau glacée sur mon corps. Soulagement de ne plus sentir sur moi les regards de tous ces fantômes. Sans doute la salle de bain ne doit jamais servir. Dans la salle piquée du lavabo, oh, ces lumières funèbres, verdâtres qu'il y a dans toute la maison, se reflète le plafond bas, couvert de toiles d'araignées, et parmi les fils brillants de l'eau, évitant les murs sales, mon propre corps, en équilibre sur la pointe du pied, dans la baignoire crasseuse. Cette salle de bain a l'air d'un repère de sorcière. Sur les murs noircis, des traces de mains crochues, des cris de désespoir. Partout, des écaillures, comme des bouches édentées dégoulinantes d'humidité. Au-dessus de la glace, car il n'y a pas d'autre place, une macabre nature morte de merlan blême et d'oignon sur fond noir. La folie ricane sur les robinets faussés. Comme les ivrognes, je commence à voir des choses bizarres. Brusquement, je referme la douche. Le charme cristallin protecteur est rompu. Je me retrouve seule parmi la sordidité de ces choses. Comment finis-je par m'endormir? Je ne sais pas. Dans la chambre qui m'est destinée, il y a un grand piano dont le clavier est découvert. Contre les murs, une foule d'appliques, quelques-unes de beaucoup de valeur. Un secrétaire chinois, des tableaux, des meubles disparates. On dirait la chambre de débarras d'un palais abandonné. C'est le salon. Au milieu, comme une couche funéraire entourée de pleureurs, une double rangée de fauteuils éventrés, le divan recouvert d'une couverture noire, mon lit. Sur le piano, on a posé une bougie, le lustre n'a pas d'ampoule. Avant de se retirer, Angustias fait sur mon front le signe de la croix, tandis que grand-mère m'embrasse tendrement. Je sens contre ma poitrine son cœur palpiter comme une bête menue. « Si tu t'éveilles et que tu aies peur, appelle-moi, mon enfant, » dit-elle de sa voix chevrotante. Et ensuite, dans un susurrement mystérieux à mon oreille, « Moi, je ne dors jamais. Je suis toujours en train de faire quelque chose la nuit dans la maison. » Jamais je ne dors, jamais. Elles finissent par s'en aller et je reste dans l'ombre des meubles que la lumière de la bougie enfle et emplit d'une sorte de vie palpitante et profonde. La puanteur répandue dans toute la maison me parvient dans une bouffée plus forte. Ça sent l'ordure de chat. Du coup, j'étouffe et me risquant à un dangereux alpinisme sur le dossier d'un fauteuil, j'ouvre une porte aperçue parmi les draperies de velours et de poussière. Dans la mesure où les meubles me le permettent, je réalise mon dessein. Cette porte ouvre sur l'une de ces galeries à jour qui donnent tant de lumière aux maisons de Barcelone. Trois étoiles tremblent dans la douce obscurité d'en haut, et en les apercevant, je suis prise d'une subite envie de pleurer, comme à la vue de vieux amis brusquement retrouvés. Cet éclat palpitant des étoiles fait ressurgir mes illusions sur Barcelone avant que j'entre dans cette atmosphère diabolique. Je redoute de me fourrer dans ce lit qui ressemble à un cercueil. Une terreur indéfinissable me fait trembler quand j'éteins la bougie. « petit matin, mes couvertures en désordre sont par terre. Sentant le froid, je les tire sur moi. Les premiers tramways commencent à circuler. Assourdis par l'appartement fermé, la sonnerie de l'un d'eux parvient jusqu'à moi. Comme en cet été de mes 7 ans, lors de mon dernier séjour chez mes grands-parents. Sur le champ, j'ai la sensation vague, mais aussi vive et aussi fraîche que peut le donner le parfum d'un fruit à peine cueilli, de ce qu'était Barcelone dans mon souvenir, ce bruit des premiers trams, alors que ma tante Angustias passait devant mon petit lit improvisé afin de tirer les persiennes qui laissaient déjà passer trop de jours. Ou bien, la nuit, quand je ne pouvais dormir à cause de la chaleur et que le cahotement grimpait la côte de la rue Haribaud pendant que la brise emplissait d'odeur les branches des platanes verts et poussiéreux sous la fenêtre ouverte. Barcelone, c'était aussi de larges trottoirs mouillés par l'arrosage et des gens buvant des boissons fraîches dans un café. Tout le reste, les grands magasins brillamment éclairés, les autos, le brouhaha et même ma promenade de la veille en sortant de la gare, ajoutée à mon idée de la ville, c'était quelque chose de pâle et de faux, construit artificiellement, et qui, comme tout ce qui est trop travaillé et trop manipulé, a perdu sa fraîcheur originelle. Sans ouvrir les yeux, je perçois une nouvelle vague heureuse et chaude. Je suis à Barcelone. J'ai fait là-dessus trop de rêves pour n'avoir pas la sensation d'un miracle. Cette première rumeur de la ville me dit clairement que Barcelone est une réalité aussi véritable que mon corps ou que le contact rude de la couverture sur ma joue. Il me semble avoir rêvé des choses désagréables dont je me délasse dans cette joie. J'ouvre enfin les yeux. Ma grand-mère est en train de me regarder. Non, pas la petite vieille d'hier soir, menue et desséchée, mais une jeune femme au visage ovale, sous la voilette d'un chapeau à la mode du siècle dernier. Elle sourit avec beaucoup de douceur. La soie bleue de sa robe palpite imperceptiblement. À côté d'elle, dans l'ombre, mon grand-père, très beau, avec son épaisse barbe châtain et ses yeux bleus sous des sourcils rectilignes. Je ne les avais jamais vus ensemble à cette époque de leur vie. La curiosité me vient de connaître le nom de l'artiste qui a signé leur portrait tel qu'ils étaient tous les deux à leur arrivée à Barcelone il y a 50 ans. Il y avait une longue et difficile histoire de leurs amours. Je ne me rappelle plus quoi, quelque chose qui se rapporte à une fortune perdue. Mais en ce temps-là, le monde était optimiste et eux s'aimaient beaucoup. Ils essuyèrent les plâtres de cet appartement de la rue Haribaud que l'on commençait alors à bâtir. Il y avait encore beaucoup de terrain vide, et peut-être l'odeur de la terre rappelait-elle à ma grand-mère des jardins qui étaient ailleurs. Je me la représentais avec cette même robe bleue, ce même gracieux chapeau, entrant pour la première fois dans cet appartement vide qui sentait encore la peinture. « J'aimerais habiter ici », pensa-t-elle peut-être, en apercevant à travers les vitres les espaces libres. « C'est tranquille. » Et cette maison est si propre, si neuve. Ils étaient venus à Barcelone, eux, avec l'illusion exactement opposée à celle qui m'amenait, moi, le repos dans un travail sûr et méthodique. La ville qui avait été leur port de refuge, je me l'imaginais, moi, comme le levier de ma vie. Cet appartement à 8 fenêtres sur la rue s'emplit de rideaux, dentelles, velours, rubans. Les malles déversèrent leur contenu de frivolité, quelques-unes de valeur. Les coins se garnirent peu à peu, les murs aussi. Des pendules historiées mirent dans la maison leur pulsation vitale. Un piano, comment aurait-il pu manquer, ses airs languissants au crépuscule. Quoique plus très jeunes, ils eurent beaucoup d'enfants, comme dans les contes. La rue Haribaud grandissait elle aussi. Des maisons aussi hautes que la leur, et même davantage, s'alignèrent en larges et profonds îlots. Les arbres allongèrent leurs branches, et le premier tram électrique y apporta sa note particulière. La maison vieillit. On y fit des retouches. Plusieurs fois elle changea de propriétaire et de concierge, mais mes grands-parents, immuables, continuaient à habiter le premier. Au temps où j'étais leur seule petite fille, je passais là les périodes les plus passionnantes de ma vie d'enfant. Ce n'était plus une maison tranquille, elle était désormais prise dans le cœur de la ville. Lumière, bruit, tout le flot de la vie venait se briser contre ses fenêtres aux rideaux de velours. À l'intérieur aussi, elle bouillonnait. Il y avait trop de monde. Pour moi, ce vacarme était enchanteur. Tous mes oncles et tantes m'achetaient des friandises et récompensaient mes polissonneries. Bon papa et bonne maman avaient déjà leurs cheveux blancs, mais ils étaient encore robustes et riaient à mes espiègleries. Était-il possible que cela fût si loin? J'avais une sensation d'insécurité en face de tout ce qu'il y avait là de rangé. La pensée qu'il me fallait affronter les personnages entrevus la veille au soir la rendait encore plus aiguë. « Comment sont-ils ? » pensais-je, et je restais dans mon lit, hésitante, sans oser aller les retrouver. À la lumière du jour, la pièce avait perdu son horreur, mais non son désordre et son délabrement. Les portraits de mes grands-parents, sans cadre, étaient accrochés de travers au mur, couverts d'un papier sombre taché par l'humidité. Un rayon de soleil poussiéreux montait jusqu'à eux. Je me complaisais à penser qu'ils étaient morts tous les deux depuis des années, que la jeune femme à la voilette n'avait rien de commun avec la chétive momie qui m'avait ouvert la porte. Pourtant, chose lamentable, c'était bien elle qui vivait parmi le tas d'objets de rebut qui s'étaient accumulés avec le temps. J'ai eu tort, je suis revenu dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couché sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs et j'ai laissé couler mes pleurs.
Vous pouvez me retrouver chaque vendredi à 8h30 ou en rediffusion le mardi à 16h30 ainsi qu'en podcast.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.